Bonjour, moi je m'appelle David Rosset, j'ai la joie d'être le pasteur de cette communauté. Grandir et diminuer. On est dans une série sur la croissance depuis plusieurs semaines dans notre communauté. Et puis j'ai un peu résumé chaque fois avec des versets clés ce qu'on a déjà pu vivre. Pour le culte de rentrée, donc où il y avait beaucoup d'enfants qui étaient réunis, ma collègue Nathalie Perrault a pris ce verset où, dans Luc qui nous dit que Jésus progressait en sagesse et en stature et en grâce auprès de Dieu et des humains. Donc il y avait la croissance, notamment pour tout ce qui concerne la famille, les enfants. Ensuite, j'ai pris une prédication avec ce texte clé dans le livre des Actes, où il nous était dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. On a parlé de la croissance numérique, donc j'ai regardé, ça va aussi pour une croissance en nombre, pas seulement pour une croissance iPhone. Donc c'était de se dire que Dieu donne la croissance, puis que c'est à recevoir cette croissance comme un don de Dieu. Ensuite, on a fait une prédication, un petit détour par le monde du travail avec David Fogel. Dimanche passé, il y avait ce texte de la Genèse, de nouveau pris par ma collègue Nathalie, où Dieu qui bénit et puis qui ordonne aux hommes de se multiplier. Donc de nouveau une perspective de croissance aussi numérique. Et puis ce matin, je prends un tout petit peu le contre-pied, puisque je parle de grandir et diminuer. J'en profite aussi pour vous dire que chaque semaine, nous les pasteurs, on prépare pour vous, groupe de maison, des petits canevas de partage qui favorisent les méditations. Donc si vous êtes aussi intéressé à pouvoir reméditer ce qu'on a vécu au culte le dimanche, ben adressez-vous simplement à l'un d'entre nous et puis on vous envoie volontiers ce petit canevas. Puis je crois que ça favorise le partage en groupe et puis d'approfondir aussi un peu ce que vous avez pu recevoir les dimanches matins. Grandir et diminuer. Pour ça, je vais m'appuyer sur un texte dans l'évangile de Jean, donc dans le Nouveau Testament, au chapitre 3, et ce sera les versets 22 à 26 que je vais vous lire maintenant. Jean, c'est un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit une vie de Jésus. Et puis, cette vie de Jésus, il la donne un peu de manière différente. Tous les évangélistes, qu'ils s'appellent Matthieu, Marc, Luc ou Jean, il y en a quatre dans la Bible. Et puis là, on est à un endroit assez important parce que Jésus vient d'avoir un dialogue avec un homme qui s'appelle Nicodème. Il n'y en a plus beaucoup actuellement, mais si vous avez un problème pour trouver un prénom original, puis c'est la mode des prénoms originaux, ben vous pouvez l'appeler Nicodème. Et puis, il a un entretien assez fort avec lui, qui est un chef du peuple juif. Et puis, il culmine cet entretien avec ce verset très connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Donc, il culmine ce dialogue avec ça, et on retrouve Jésus juste après avec ses disciples, et c'est le texte que nous méditons ce matin. Après ce dialogue, Jésus vint avec ses disciples en Judée, une région en Israël. Là, il séjournait avec eux, et on apprend que Jésus baptisait. Jean, Baptiste, aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. C'est assez pratique. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il y eut un débat entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi là, de l'autre côté du Jourdain, et à qui, toi, tu as rendu témoignage. Voici que lui aussi, il baptise et que tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, « Moi, je ne suis pas le Christ, mais c'est devant lui que je suis envoyé. » Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Car celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et sa parole est de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus du tous et il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce qu'il donne l'Esprit Saint sans mesure. Dieu, le Père, aime le Fils et il a tout remis en sa main. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est sur cette phrase clé que nous allons méditer ce matin. Ça va bien quand on parle de croissance. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, si on s'intéresse un tout petit peu à Jean-Baptiste, c'est intéressant de voir l'épaisseur que va prendre cette phrase qu'il prononce. Jean-Baptiste, c'est un prophète qui est très respecté. Hein. Roger l'a dit dans sa prière, les prophètes, c'était des personnes très respectées et qui parlaient de la part de Dieu, tout simplement. Prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu et qui est reconnu comme tel, comme quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et il avait ce statut-là dans le peuple, il avait ce statut-là qui lui a été accordé, pas parce que lui s'est proclamé prophète, mais parce que les autres ont vu en lui une personne particulière qui parlait de la part de Dieu. Donc il avait un certain statut. En plus, ce Jean-Baptiste, c'était un leader très respecté, parce qu'il allait se perdre dans le désert, et malgré ce qu'il se perdait complètement dans le désert, des centaines, voire des milliers de personnes venaient vers lui, pour goûter à ses paroles, goûter à son enseignement, et aussi se soumettre à un rite de purification, le baptême. Donc ça veut dire qu'il était assez influent, voire même très influent. Beaucoup de personnes le suivaient de manière très très forte, parce qu'il avait aussi un groupe de disciples à sa suite. Donc il avait finalement un peu toutes les caractéristiques que normalement on attribue à Jésus. Il a aussi une foi énorme parce qu'il vivait, il y a d'autres textes qui nous disent qu'il vivait de rien, donc c'est-à-dire qu'il comptait toujours sur ce que la nature pouvait lui offrir pour sa nourriture, pour sa boisson, pour subvenir à ses besoins. Il était vêtu très simplement, il comptait vraiment sur la grâce de Dieu. Donc il avait une foi énorme, une foi que l'on peut envier. Et finalement, il s'avère qu'il pratique exactement la même chose que ce que Jésus pratique, puis c'est ce qu'on voit dans ce texte. Puis ça culmine à ce point de tension où, je ne sais pas si vous remarquez, mais ce n'est pas Jean-Baptiste et Jésus qui se tapent dessus, mais c'est les disciples des deux qui commencent à se dire « Ah, lequel est le meilleur? Lequel est-ce qu'il faut que je suive ?» Donc, on a tout, normalement, pour avoir un face-à-face explosif. Normalement, quand ça monte comme ça des deux côtés, quand il y a deux leaders respectés qui ont chacun leur groupe de disciples, chacun leur dizaine de suiveurs, voire leur centaine de suiveurs, que les premiers suiveurs commencent à se poser des questions, qui est vraiment le vrai leader, normalement, ça devrait clasher. À vue humaine, ça devrait clasher. Et c'est très intéressant, parce que j'ai un peu fait des recherches au niveau historique, de voir que tous les théologiens ou tous les historiens qui regardent que d'un point de vue très rationnel, cette situation entre Jésus et Jean-Baptiste, ils ne peuvent que voir la perspective où il y a une concurrence entre les deux. Ça, c'est intéressant. Pour eux, c'est inconcevable que ces deux mouvements ne se fassent pas concurrence. Quitte à zapper le texte que l'on médite ce matin, oui, Jean s'exprime, il faut qu'il croie, c'est que moi, je diminue. Pour eux, c'est inconcevable parce qu'effectivement, à vue humaine, si on met toutes ces caractéristiques-là, on ne peut qu'aboutir à une forme de concurrence où on cherche à prendre le dessus l'un sur l'autre par tous les moyens. Donc, il y a toutes les caractéristiques de cette situation du côté de Jean-Baptiste pour ne pas s'effacer. Il y a toutes les caractéristiques pour ne pas diminuer. Et pourtant, Jean-Baptiste s'efface. Le discours qu'il tient devant ses disciples, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne prononce aucune parole dans cette rencontre. Rien du tout. Par contre, Jean témoigne de ce que Jésus a fait en lui. Il y a toutes les caractéristiques pour qu'il ne s'efface pas, et il arrive à la conclusion de cette mise en tension en disant « Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. » Je trouve ça assez impressionnant. Et je trouve aussi assez impressionnant cette manière que dont Jean agit, qui nous interpelle aussi. Parce que d'abord, il pose les actes qui montrent qu'il a intégré cette parole dans sa vie quotidienne, qui montrent qu'il a intégré cette puissance de Jésus qui vient au-delà de sa propre puissance à lui. Et pourtant, il avait toutes les raisons de rester assez puissant. Et ensuite, il prononce cette parole-là. Et je trouve ça aussi assez fort dans cet exemple qui nous est laissé dans l'évangile, là. C'est de se dire, d'abord, on voit ce que Jean fait réellement, c'est-à-dire il ne se vexe pas, il ne prend pas ombrage que Jésus baptise aussi. Il laisse cette situation se vivre au niveau des disciples inférieurs, j'ai envie de dire, au niveau des suiveurs. Il laisse un peu la mayonnaise monter. Et ensuite, cette parole tombe comme un fruit mûr et on se rend compte du poids de cette parole parce qu'on a compris tout ce qui se trame là autour. C'est de nouveau, pour moi, une bonne nouvelle de la Bible. On n'est pas en train de parler d'un sujet spirituel, on est en train de parler d'une situation très concrète où, puis ça on ne l'observe jamais hein, dans la vie de tous les jours, où il y a des histoires de comparaison, il y a des histoires de compétition, on se monte un peu le chou les uns les autres, et là, cette parole tombe pour casser cette symétrie qui montait, puis qui montait en épingle. Il faut bien se rendre compte que cette parole, elle tombe là-dedans. Elle ne tombe pas dans un contexte spirituel ou quoi que ce soit, elle tombe dans une situation de vie extrêmement concrète qui nous concerne encore tous, parce qu'on est tous sujets aux comparaisons les uns les autres, puis se dire qu'est-ce qui va prendre le dessus, qu'est-ce qui ne va pas prendre le dessus. Et là, cette parole tombe comme un fruit mûr. Donc le témoignage, d'abord par les actes, et ce témoignage par les actes permet que cette parole prenne toute son ampleur, tout son poids. Si Jean s'était contenté de dire que Jésus occupait toute la place dans sa vie, mais qu'il n'y avait aucun exemple très concret, pratique, on dirait, bon ben voilà, il parle, mais ça ne l'influence pas. Là, il commence par montrer l'influence, avec tous les enjeux que ça a pour lui, parce qu'il se dit, mais est-ce que mes disciples vont encore me suivre? Qu'est-ce qui va se passer de moi? Est-ce que je vais avoir toujours le même succès? Enfin, vous imaginez toutes les questions qu'il a pu se poser, auxquelles il a répondu en prononçant cette phrase. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est pour ça qu'on peut dire, d'une certaine manière et un peu d'une façon provocative, que si on cherche cette croissance spirituelle, il nous faut envisager une décroissance personnelle. Alors, j'ai un peu rigolé, puis je me suis dit, imaginez le succès que j'aurais si j'allais me présenter comme ça, en tant que David Rossé, coach en déclin personnel. Je peux mettre mon numéro de téléphone, puis mon IBAN aussi, comme ça, dessous. Je suis quasiment sûr que j'aurai à peu près, combien ? 0 client, hein. À tout casser, 1 s'il m'aime vraiment bien, puis que ça a capé, puis qu'il a envie de faire marcher mon affaire. Mais si je deviens coach en déclin personnel, aucune chance que ça marche. Actuellement, c'est coach en développement personnel, hein, évidemment. Puis des fois, je me demande si à l'église, on ne cherche pas des coachs en développement personnel. Ça, c'est la petite, on pourra discuter. Mais ce qui est important, ce qui est important de voir là, c'est que si on médite, d'après moi, profondément la parole, on ne peut pas arriver sur ces dimensions qui nous environnent de manière extrêmement forte, où on compte sur ce développement personnel. Mais si on lit avec profondeur ces textes, et notamment cet exemple-là, on ne peut que tomber sur cette forme un peu provocative de coach en déclin personnel. Coach en déclin personnel, c'est un peu provocateur, mais je crois que c'est profondément biblique et c'est profondément ce que Jean veut nous montrer de sa relation avec Jésus. Et ça, dans notre monde, et pour nous, non seulement dans notre monde, mais pour nous personnellement, c'est jamais facile à entendre. Parce que une diminution de l'ego, une diminution de qui on est, c'est pas facile à entendre et c'est même impossible à entendre. Et c'est pour ça que Jean continue tout de suite après, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, verset 31, il dit « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous ». Si on n'a pas cette conviction que cette sagesse-là, cette injonction-là, parce que c'est une injonction, ce n'est pas une invitation, elle vient d'en haut, puis elle surpasse tout ce que nous, on pourrait penser sur cette terre, on ne va jamais pouvoir emprunter cette voie-là. Il y a besoin, comme d'une révélation surnaturelle, de se dire, mais il y a quelque chose de plus qu'avec mes yeux humains, je n'arrive pas à comprendre. C'est exactement l'écueil dans lequel sont tombés les historiens, puis qui se disent, Jean-Baptiste, ce n'est pas possible qu'il ait pu prononcer une phrase comme ça, parce que humainement, ce n'est pas possible qu'on en prononce une comme ça. Ce n'est pas possible que dans sa situation, on fasse de lui-même ce pas de retrait, et puis de se dire, je ne vais pas aller en symétrie, en concurrence. On ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il y a cette phrase capitale qui est juste après, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Et en tant que croyant, tout simplement, on fait confiance à celui qui vient d'en haut, puis on lui dit, « Prends cette place-là. » Ce n'est pas un acte forcé, Mais c'est une invitation qu'on fait et puis qu'on nous dit, viens en moi. Et puis le baptême nous le montre bien, puisqu'on est dans ce contexte de baptême, où on meurt d'une certaine façon à nous-mêmes et on ressuscite avec le Christ, avec cette force qui vient d'en haut. C'est pour ça que c'est un mouvement capital, qu'on accorde beaucoup d'importance dans cette communauté à cette pratique du baptême, encore maintenant, plus de 2000 ans après, parce qu'on se dit, il y a cette force qui vient d'en haut et que nous décidons de la prendre pour nous-mêmes et qu'elle influence notre vie. Et qu'elle influence notre vie, qu'elle ne reste pas l'être morte, mais elle va influencer notre vie. Dans le verset qu'il faut qu'il croisse et que je diminue, il y a aussi ce verbe qui est assez intéressant. Souvent employé dans les dialogues politiques, surtout si on écoute les radios françaises, il y a 14 « il faut » par phrase, généralement. « Il faut que, il faut que, il faut que ». Là, c'est un peu une autre vigueur du « il faut ». C'est une vigueur de nécessité. Si Jean, il a compris effectivement quelle était la mission de Jésus qui est là comme sauveur du monde, pour lui, ça devenait évident de se dire « il faut, j'ai pas d'autres alternatives. Je ne peux pas dire je fais un partenariat avec Jésus, puis on perd part égale 50-50, et puis on fait notre truc, on fait une fusion comme ça, on a trois fois plus de disciples, et puis on va encore plus conquérir de monde. » Ce n'est pas ça. Il faut, il s'est rendu compte qu'il y avait une nécessité, d'un terme qu'on n'aime pas beaucoup, de soumission, pour pouvoir lui ensuite grandir. Il passe par cette étape-là pour ensuite grandir. Donc finalement, c'est une étape de déclin personnel, une étape continue de notre vie de croyant, parce que naturellement, on va vouloir reprendre le dessus par nos propres forces, nos forces terrestres. C'est chaque fois un effort de se dire « je fais ce pas de côté », et puis je dis « je me laisse inspirer par cet esprit qui vient d'en haut ». Je me laisse inspirer par ce que Jésus a fait sur la terre et qui peut guider encore mes pas à l'heure actuelle. Croissance spirituelle est égale à décroissance personnelle. Et on peut retrouver cette idée dans beaucoup d'autres passages des évangiles. Il y a notamment un passage où Jésus annonce à ses disciples que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Ça va exactement dans la même direction. Si on veut essayer par nos propres forces, on va finalement perdre notre temps et perdre notre énergie. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Il y a cette relativisation radicale de ce que l'ambiance générale parle un peu de notre position d'homme-dieu, finalement, d'homme qui peut tout décider et qui maîtrise tout. Et avec la technologie, ça a plutôt tendance à s'amplifier, cette notion de position d'homme-dieu. Et là, je trouve que la foi chrétienne est véritablement une bonne nouvelle, dans le sens où elle nous sauve de cette prétention-là, puis elle nous dit qu'on est plutôt limité, qu'on a besoin de cette présence-là, pas pour s'auto-flageller, pour que notre ego soit complètement flétri, mais pour que notre ego, parce qu'on en a besoin, soit simplement régénéré par une puissance qui vient d'en haut. Puis ça, c'est peut-être la chose sur laquelle j'aimerais terminer ce message, c'est de se dire, je pense que pendant des... on a pu comprendre un peu de travers cette notion de se laisser envahir par Dieu, puis de diminuer notre ego. Parce que ça arrivait assez régulièrement qu'il y ait des générations de chrétiens qui soient des générations de chrétiens un peu flétries, dans le sens où on ne sait plus quoi faire parce qu'on se demande si on est dans le juste ou bien pas. Je crois plutôt qu'il nous faut voir cette arrivée, puis ce relativisme, comme le fondement de base sur lequel on s'appuie. C'est-à-dire que notre manière de voir, par essence, on se dit qu'elle a besoin d'être inspirée par le ciel. Elle a besoin d'être inspirée par le Saint-Esprit qui vit en nous. Ça, c'est notre position de base, c'est la décision qu'on a prise quand on décide de devenir croyant. Mais ensuite, on est un peu dans une lutte continue de se dire, est-ce que c'est mon ego qui reprend ou est-ce que je me mets à l'écoute de Dieu ? Et puis je crois qu'on peut tous en témoigner, dans la vie chrétienne, on est un peu dans cette balance-là. Des fois, on se rend compte qu'on va plus ou moins en avant, des fois qu'on progresse aussi, mais on est dans cette balance-là. Par contre, cette base de « il faut qu'il croisse et que je diminue », je crois que ça reste notre fondement sur lequel ensuite on peut construire et envisager la vie de manière différente. Et là, je crois que l'exemple de Jean-Baptiste nous interpelle fort parce qu'il nous permet une expérimentation très concrète, très pratique. Il permet une expérimentation dans les rapports qu'on a les uns avec les autres. Ça, c'est toujours très concret, puis on en a tous les jours, que ce soit dans notre famille, sur notre place de travail, que ce soit avec nos voisins. Il y a toujours cette tendance à vouloir se comparer puis à se dire à quel point j'en suis par rapport à lui. Et la première réponse qu'on a, c'est généralement, si on sent que ça monte, on essaie de se retirer parce que c'est assez désagréable, puis on tombe dans la différence. Et puis Jean-Baptiste nous propose autre chose, nous propose de nous dire, on a une identité ferme en Christ, celle d'être enfant de Dieu. Ce fondement-là, il ne va pas bouger et il peut nous donner la sécurité d'aller sereinement dans nos rapports les uns avec les autres. Parce que je crois que s'il prononce cette phrase par rapport à Jésus, il la prononce aussi finalement de manière plus étendue par rapport au prochain, à l'autre qui est en face de lui. Si on arrive à dire par rapport à notre prochain, il faut que tu croisses et que je diminue, je ne crois pas que c'est aller trop loin dans l'interprétation de ce texte-là. Je crois plutôt que c'est de se dire d'une manière très concrète, on peut essayer d'expérimenter ce que ça veut dire de penser que l'autre peut croître et que moi, je peux diminuer. L'autre qui peut être le Christ, mais l'autre qui peut aussi être simplement mon prochain, celui qui est à mes côtés tous les jours. Alors je crois qu'on a un sacré programme là, au niveau de la croissance, notre croissance spirituelle, notre croissance aussi communautaire et dans nos liens avec le prochain. Moi je trouve ce programme assez encourageant parce qu'il est profondément original. Profondément original qu'en tant que chrétien, on a cette possibilité de faire une différence de manière vraiment originale par rapport à ce qui se vit et ce qui se passe autour de nous. Et je crois que c'est pour ça qu'on se réunit aussi en Église, c'est pour louer Dieu, lui rendre un culte, mais aussi être encouragé, nous, croyants, à vivre cette originalité qui n'est pas si simple que ça à vivre dans notre vie de tous les jours. Puis là, je trouve que c'est beau de pouvoir se mettre à l'écoute ensemble, prendre la scène ensemble, pouvoir chanter ensemble, parce qu'on se dit, déjà, on n'est pas tout seul à essayer d'aller dans cette direction, mais on a vraiment ce but commun, ce but qui donne sens à notre vie. Alors que cet exemple de Jean-Baptiste, ce « il faut qu'il croisse et que je diminue » puisse être notre axe de déclin personnel et que nous puissions le vivre dans la joie et même la bonne humeur. Amen.